Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 44, un numéro qui va être divisé en deux. J'ai un thème pour le numéro d'aujourd'hui, mais j'ai besoin de prendre quelques minutes pour vous parler de comment ça va se passer pour la suite. Depuis la création du podcast, je vous ai dit que j'allais avoir besoin probablement d'environ une centaine de numéros pour pouvoir bien trouver l'identité du podcast. Là, on est au 44, donc. Et après 2 mois de semi-hiatus pendant l'été, ça m'a permis de repenser certaines choses. J'en profite pour vous remercier aussi, même s'il y a eu un arrêt pendant l'été, le nombre d'auditeurs, le nombre d'écoutes a continué d'augmenter. Et comme je ne fais pas de pub, la seule raison pour laquelle ça augmente, c'est que ben, vous avez tagué un de vos amis, vous avez suggérer ce podcast à quelqu'un en disant peut-être ce numéro-là ou ceci va t'intéresser. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ça. Forcément, ça me touche. J'essaie de faire, moi, de mon côté, le contenu le plus intéressant possible. Et quand je vois que je ne suis pas tout seul à penser ça, ben forcément, ça me valide dans mon travail. Et c'est vraiment l'équivalent virtuel de la table dans le dos. Et en passant, j'ai découvert cet été, et je ne sais pas si je suis le seul, mais vous pouvez faire le test, là. Tu sais que c'est le geste symbolique de l'encouragement, c'est la table dans le dos. Et je l'ai fait ironiquement à quelqu'un, à mon épouse d'ailleurs, cet été. Et elle a vraiment eu une réaction genre « Oh! » comme si c'était vraiment chouette. Et je l'ai essayé sur moi-même, me auto-donner une tape dans le dos en me disant « Beau travail, ça va aller. » Et c'est peut-être moi qui suis complètement déréglé, mais ça fait du bien. Franchement, je vous encourage à le tester. Je vais juste vous fermer les yeux, vous taper dans le haut de votre dos en disant « Beau travail aujourd'hui. Je suis fier de toi. » Oh mon Dieu, ça m'a fait remonter, je dirais, au moins 14 émotions en une shot. Donc voilà, donc j'ai une réflexion et forcément, parmi tous les gens qui écoutent, il y en a qui c'est via les Apple Podcasts, via Anchor directement, Spotify et aussi le Patreon. Patreon, en gros, c'est un abonnement. C'est comme un OnlyFans, pas de nudité. Et j'ai un Patreon et il y a des gens qui sont dessus et qui payent pour l'instant en n'ayant absolument rien de plus que tous ceux qui écoutent les podcasts gratuitement. Et donc, je vous remercie pour votre soutien. Mais bon, c'est pas viable à moyen et long terme. Donc, j'ai trouvé comment j'allais faire les choses. À partir de maintenant, il va y avoir 3 numéros par semaine, 2 qui vont être gratuits. Et un qui va être uniquement pour les abonnés du Patreon. Donc, c'est patreon.com/DanGagnonPodcast. Donc, voilà. Comme ça, ceux qui payent ont quelque chose en plus. Le podcast continue d'exister. Si vous n'avez pas envie de payer puis que ça vous intéresse, comme ça vous intéresse, mais pas assez pour payer, zone que je comprends tout à fait, ben vous avez quand même 2 numéros par semaine. Et la raison pour laquelle je suis confiant de réussir à faire ces 3 numéros-là, parce que la régularité n'est pas ma force, c'est que je suis enfin arrivé au moment où ma vie est une routine. L'enfant vient de commencer la garderie ou la crèche, comme on dit en Belgique, en France, je ne sais pas comment on dit, j'avoue. Et donc, j'ai plus de bureau. Je travaille maintenant de la maison parce que la maison est vide pendant la journée. Mon épouse a repris les cours. Et la routine, moi, c'est l'accomplissement d'une vie. Je sais que le mot « routine » est souvent associé à quelque chose de négatif. Ah, c'est ennuyant, c'est plan-plan, c'est chiant, c'est le fait d'avoir abandonné, c'est l'absence de nouveauté. Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, si tu n'aimes pas la routine, le problème, c'est pas la routine, c'est ce que tu as mis dedans. Ouais, une routine, c'est une manière de faire en sorte que tout ce que j'aime faire, je peux le faire, je maximise mon temps et c'est d'une manière régulière comme ça, mon corps et mon esprit sont heureux. Je me lève à la même heure, je bois ou je mange à la même heure, je travaille à la même heure, ça me dynamise. En fait, ça m'enlève énormément de charge mentale sur ma propre vie. Comme je sais exactement ce que je vais faire au moment où je vais le faire, j'ai pas besoin de réfléchir à ça et ça me libère. D'ailleurs, parlant de ça, Pablo Andrés, quelqu'un avec qui je travaille et au-delà de ça, un ami et quelqu'un que j'aime beaucoup, m'a recommandé un livre cet été. Je n'ai aucune idée quand il est sorti. Moi, je l'ai écouté en audiobook. Je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à lire et ça m'embête très, très fort. Je me déçois. Genre, souvent, je me dis je suis trop fatigué pour lire. Et peu importe la journée, peu importe mon énergie. Et pour l'instant, la manière que j'ai de contourner ça, c'est d'écouter des audiobooks. Comme ça, au moins, j'ai l'impression de pouvoir un peu m'améliorer et évoluer. Et voilà. En attendant, j'espère un jour d'être capable de recommencer à lire comme une personne normale. Et donc, il m'a recommandé un livre qui s'appelle The Essentialist. Essentialist. Et en gros, c'est vraiment dans la foulée de The One Thing, la semaine de 4 heures, tout ce que j'écoute, sur lequel je me concentre en ce moment, qui est comment faire le ménage dans ta tête, à peu de choses près. Et il y a plusieurs choses forcément dans ce livre qui m'ont beaucoup aidé, et dont une qui, comme la plupart des phrases pour lesquelles tu as un déclic, c'est quelque chose que tu as déjà entendu peut-être 600 000 fois dans différentes versions, mais à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, dans ta tête, il y a un déclic avec ce moment. Et moi, j'aime beaucoup tout, quasi. J'ai des projets. Si je regarde une série médicale, j'ai envie de devenir médecin. Quand je vais à la pharmacie, j'ai envie de devenir pharmacien. Je vois quelqu'un faire du skate, je veux apprendre du skate. J'ai toujours envie de tout faire. Mais donc, c'est pas hyper toujours productif. Et souvent, je trouve que mes idées sont bonnes. J'ai pas toujours raison, hein, mais je trouve que mes idées sont bonnes. Et donc, ça me motive à me dire, ah, je mets ça dans un coin de ma tête et peut-être un jour. Et dans ce livre, donc Essentialiste, littéralement, l'auteur explique que se diriger vers une bonne idée, ou même vers une très bonne idée, t'empêche de te consacrer ou de laisser l'espace pour la meilleure idée. Et ça, je sais pas, ça m'a retiré un poids. Le fait de me dire, c'est pas parce que t'as une bonne idée que c'est une bonne idée de le faire. Et donc maintenant, je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de consacrer beaucoup de temps à ce podcast, qui est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et quand j'ai une autre idée, même si elle est bonne, je fais, ah oui, est-ce que c'est meilleur que l'idée de faire ce podcast pendant 40 ans? Non. Eh bien, je me sens hyper à l'aise de Marie Kondoiser mon cerveau, en fait. Et donc, j'abandonne. C'est une bonne idée, mais je le ferai pas. Et ça m'a enlevé un poids. Et l'autre truc, c'est un exemple qu'il a donné, c'est un coach de rugby qui utilise l'acronyme WIN, donc voilà. Pour toujours garder ses joueurs dans un certain focus, c'est qu'est-ce qui est important, what's important now? Donc, qu'est-ce qui est important maintenant? Et ça m'a permis, je veux dire, ça fait des années que j'essaie de faire un peu de méditation, de la pleine conscience, de me rendre compte que je ne suis pas juste des pensées en boucle qui se promènent dans un corps, dans un monde flou, que je remarque même pas, en fait. Et souvent, la réponse à qu'est-ce qui est important maintenant dans cette seconde, ben, c'est rien. Rien qui requiert énormément mon attention. Genre, si je conduis, ce qui est important, c'est juste ne pas avoir d'accident. Et le reste, je vide mon cerveau et je fais juste comme, ah, OK, il n'y a rien d'important en ce moment. Et le fait de se dire qu'il n'y a rien d'important en ce moment, ça m'a aussi apaisé tellement fort. Et ça a été ça, mon été, au final. Je pensais, à la base, on avait réservé pour aller passer, faire le plus grand fantasme de n'importe quel artiste, je crois, écrivain, personne humaine, passer un mois dans une maison isolée en Toscane. Et ben, avec la pandémie, ça n'a pas été possible. Et puis finalement, plein de choses sont arrivées. J'ai absolument pas passé l'été que je croyais passer. Mais ça a été finalement une espèce d'été de thérapie. J'avais fait le choix conscient de ne pas travailler pendant 9 semaines. Et je sais que c'est en partie un luxe et en partie une décision. Je veux dire un luxe parce que je sais très bien que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se le permettre que ce qu'on croit. J'ai décidé de ne pas travailler pendant 9 semaines au lieu d'acheter une piscine, par exemple, au lieu de partir en vacances, au lieu de m'acheter des fringues dans l'année, au lieu d'aller au resto. Ce choix-là est un choix qui a un coût. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ce coût, en fonction de la carrière que tu veux faire, etc., etc. Mais je crois que c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on croit. Voilà, basé sur, comme d'habitude, rien du tout. C'est pas vrai. Beaucoup de livres que j'ai lus qui donnent plusieurs exemples. Et ça me fait penser à Doug Stanhope, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui s'en prenait à une époque aux pubs de diamants pour les bagues, donc les bagues de fiançailles. Aux États-Unis, une pub qui circulait beaucoup, c'était « Qu'est-ce qu'un an de salaire pour quelque chose qui va durer toute une vie? » Donc voilà, c'était ça. Et tu vois, c'était de mémoire. C'était une pub qui vraiment tout en nombre. Vraiment, c'était juste des silhouettes. Et puis, tu n'avais que la bague qui brillait de tous les satellites au monde. Et c'était vraiment ça la pub. Et c'était un slogan que tu entendais toujours. What's a year of salary for something that will last forever? Et forcément, si tu réfléchis deux secondes, c'est une manière pour les gens de te faire imaginer, de normaliser littéralement le fait de dépenser des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour acheter une bague. Et chacun fait ce qu'il veut avec son pognon ou le pognon qu'il emprunte. C'est pas ça le point. Mais ce que Doug Stanhope disait, et je trouvais son point vraiment hyper intéressant, c'est si tu aimes vraiment la personne et que tu es prêt à sacrifier un an de salaire, passe une année sabbatique à vivre à deux. Pendant un an, tu ne travailles pas, tu as 52 semaines avec la personne et c'est ça ton cadeau. Et quand on parle du coût d'option, donc le fait d'acheter une chose t'empêche d'acheter une autre chose, 100 balles pour un pantalon ou 100 balles pour des DVD, parce qu'apparemment on est en 2006. dans le podcast, le simple fait d'ajouter dans les options du temps libre, avec cet argent-là, est-ce que j'achète du temps libre? Et je me rends compte que moi, c'est ma dépense numéro un. C'est mon objectif numéro un. Quand j'ai des sous, ce que j'ai envie de faire avec, c'est rien foutre. Ben, rien foutre. Ne pas travailler. Passer, avoir du temps libre. Me sentir libre, en fait, au-delà de ça. Même si je n'utilise pas ça pour ne rien faire, sentir que c'est une possibilité, que ma vie, ce n'est pas ce qui se passe entre mes horaires de travail. Ça me permet de me sentir en contrôle de mon existence, de me sentir libre. Enfin, bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, cet été, le temps libre que j'ai pris m'a permis de prendre beaucoup de recul. Et ça a été plus ou moins 9 semaines de thérapie. Essayer de dire, OK, bon, j'ai 37 ans, j'ai ce que je veux dans la vie pour l'instant, mais est-ce que j'ai envie d'un nouveau... C'est quoi mon prochain challenge? Est-ce que j'ai envie d'un prochain challenge ou pas? Est-ce que je veux continuer de vivre comme ça? Est-ce que moi, je suis une assez bonne personne? Et avec tout ce qui s'est passé cet été, putain, les occasions de se regarder dans le miroir ont été nombreuses. Entre le mouvement du Black Lives Matter, il y a eu énormément d'accusations d'inconduite sexuelle. J'en ai fait donc un numéro pour ceux qui... Écoute, plic-ploc, pour parler de ce truc-là. Prise de conscience générale, je veux dire médiatique, à tout de moins. Et moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai... Je me considère comme étant une bonne personne. Et si j'avais tort? Ou cette panique-là de... Tu considères que tu es une bonne personne, donc tu arrêtes de faire des efforts, tu arrêtes de t'améliorer. Et si tu es genre ouvert d'esprit aujourd'hui, puis que tu continue pas de t'informer ou de t'améliorer ou de te challenger. Dans 50 ans, t'es un conservateur radical. Et ça a été un été qui, parfois de manière douce, parfois de manière absolument pas douce, aurait permis de faire ça. Donc, si j'ai fait un bon travail, ça risque de se sentir aussi dans le podcast. Enfin bref, je l'espère. J'ai plein de gens à recontacter. Je veux dire, j'avais lancé plein de sujets avant de m'arrêter, un peu plus vite que prévu d'ailleurs en juin. Et il y avait plein de sujets en suspens que je vais relancer. Et pendant tout l'été, même si je ne travaillais pas, dès que j'avais une idée, un sujet qui me semblait intéressant, je le notais. Et donc, j'ai une liste de sujets à traiter qui me fascinent. Tous ceux qui m'ont contacté concernant l'astrologie, on va faire ce numéro-là quelque part en septembre. Je vais vous recontacter, on va discuter. Merci encore pour votre disponibilité là-dessus. Je suis hyper curieux. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle White Fragility et écrit par une femme blanche dont c'est plus ou moins, c'est le métier d'aller dans des entreprises pour parler d'égalité raciale. Et elle explique pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour les Blancs de parler du fait qu'ils soient Blancs. Et je suis au premier tiers du livre et c'est sûr que je vais vous en parler parce que ce livre est absolument fascinant. Et probablement qu'il va y avoir un peu plus de sujets, entre guillemets, engagés. Parce que ça fait aussi partie d'une prise de conscience de, ben écoute, si t'as un espace pour dire des choses et que t'aimes discuter et que t'aimes l'idée générale que tout le monde essaie d'être la meilleure personne, ben moi j'essaie de m'informer un peu plus pour faire en sorte que ce podcast soit un peu plus utile et je pense totalement qu'il n'y a aucun problème de faire cohabiter un sujet comme le dernier, c'était donc les accusations d'inconduite sexuelle et les réactions des entreprises qui ont toujours l'air de débarquer, de tomber des nues, ah, cette personne ne correspond pas à nos valeurs, comme si tu venais de l'apprendre, avec des choses complètement ludiques, légères, qui ont l'air même peut-être un peu inutiles, mais il y a sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, @JoyCaillou d'ailleurs, un documentaire sur la fameuse photo de Brel Brassens et Ferré. Je l'ai pas encore regardé, ça m'intéresse, ça me fascine, je veux voir ça. J'ai envie de faire un numéro sur les vieilles expressions françaises et d'où ils viennent. Certainement un numéro sur des expressions québécoises. Si vous suivez le podcast depuis le début, vous savez, moi, j'ai toujours milité pour le fait que l'accent, ça soit quelque chose de positif, les régionalistes, ça soit quelque chose de positif et pas quelque chose qui divise, mais une des seules façons de faire en sorte que ça enrichisse et ça ne divise pas, c'est de... Ben, c'est d'expliquer certaines, et pas genre « Ah, gosse, ça veut dire testicule au Québec. » Non, des vrais trucs, comme une expression, j'ai vu ça récemment, que au Québec, ça s'appelle « être habillé comme la chienne à Jacques ». D'où vient l'expression « la chienne à Jacques » Ce genre de choses-là. Le concept de la nuance, la masculinité, comment draguer aujourd'hui. Un des derniers sujets que j'ai noté, je me suis rendu compte que j'ai une espèce de nostalgie de l'époque où mes parents n'étaient pas à la retraite. Quand je pense à des vieilles séries où j'ai des vieux souvenirs, où tu sais, il y a souvent ça, les papas dans les séries des années 80 et des années 90-90, souvent c'était un papa complètement absent, hyper occupé, toujours en voyage d'affaires ou quoi que ce soit. Et je sais pas, à chaque fois que je pense à ça ou que je vois un film où il y a ça, ça me fait me sentir bien. Et je me demandais pourquoi, et je crois, j'ai pas encore trop fouillé pour essayer de trouver, mais je crois que ça vient du fait que si tes parents sont très très occupés, ben c'est encore eux qui sont en charge, toi t'es encore un gamin, et je sais pas, tu te sens dans une bulle protectrice. Je crois que j'associe le travail de mes parents au fait de moi être dans une bulle. Enfin bref, j'ai envie de fouiller là-dessus, je trouve ça intéressant. Je veux revenir sur un numéro pour lequel j'ai reçu peut-être le plus de réactions, c'est celui sur le fait de tomber amoureux d'un personnage de fiction. J'en avais parlé parce que moi, quand j'étais jeune, je regardais des films et parfois, j'étais tombé amoureux de certains personnages. Et j'ai reçu tellement de réactions absolument fascinantes de gens qui sont tombés amoureux, amoureuses de personnages de manga et de jeux vidéo. Et apparemment, beaucoup se demandent si c'est normal, si c'est problématique. Et j'ai envie de revenir là-dessus parce que je trouve ça incroyablement intéressant. Et je disais que j'avais un sujet quand même aujourd'hui, outre le retour, comment ça s'est passé l'été pour vous. C'est le nombre de partenaires sexuels idéal. J'ai vu pas mal d'articles passer, pas mal de commentaires passer là-dessus. Et ça a longtemps été une discussion. Je sais que quand tu es en couple, le moment où, OK, tu as couché avec combien de personnes, et parfois un moment un peu tendu, combien... Il y a tellement d'études et de statistiques sur les hommes qui vont mentir sur le nombre de partenaires, les femmes qui vont mentir sur le nombre de partenaires. Et je réfléchissais à ça, puis je me disais, en fait, je crois qu'il existe. Il y a une étude britannique, d'ailleurs, qui disait que le nombre de partenaires sexuels idéal avant de se caser, entre guillemets, était 13. Et je regardais cette phrase-là et je me disais, waouh, il n'y a pas un mot qui va dans cette phrase, en fait. Le nombre de partenaires sexuels idéal, déjà, la réponse est hyper simple. C'est le nombre que tu veux, dans un contexte de consentement. Voilà. Est-ce que c'est 1, 0, 1000? C'est ça le bon nombre. Et après, le nombre de partenaires sexuels idéal avant de se caser. Déjà, de où tu as besoin de te caser? Mais c'est peut-être pas ce que cette phrase sous-entend pour ceux qui veulent se caser. Et évidemment, le sous-entendu général, c'est pour que l'autre personne soit OK avec ça. L'autre personne n'a pas à être OK avec le nombre de personnes avec qui tu as couché. Qu'est-ce que... Déjà, ça ne la regarde absolument pas, dans un cas comme dans l'autre. Et ça illustre juste à quel point on est tellement mal à l'aise avec le sexe. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast. Si oui, désolé, les 30 prochaines secondes vont être une répétition, mais admettons que c'est Dieu qui a créé l'homme, ou, je sais pas moi, un ordinateur, on s'en fout. Le fait d'avoir donné, le fait que le sexe existe, tout simplement, que ce soit gratuit, est absolument, fascinant. Je veux dire, si tu parles de masturbation, c'est accessible tout le temps, gratuit. C'est une des sensations les plus intenses et agréables qui existent. Et t'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre qu'être avec toi-même à un moment pour y arriver. Et le fait que plusieurs êtres humains soient capables de se réunir et vivre aussi un moment comme ça, c'est absolument fantastique. Mais qu'est-ce qu'on a chié sur ce concept-là après? C'était si beau, si simple. Et c'est devenu la source de quoi? 8 milliards de problèmes. Et le simple fait d'imaginer qu'il y a une norme et de continuer de véhiculer l'idée qu'il y a une norme me perturbe, en fait. Qu'est-ce qui fait que t'es mal à l'aise si ta copine, ton mec, peu importe, a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 1000 partenaires? Donc, la seule chose que je souhaite, c'est que 100% des expériences aient été agréables. C'est ça que je te souhaite. Si tu me dis j'ai couché avec deux personnes, puis c'était deux fois problématique, ben non. Si tu me dis j'ai couché avec 268 personnes et que c'était 268 fois génial, déjà, je veux des noms. Je suis très intéressé de rencontrer ces personnes. Et félicitations, quelle réussite! Et je sais pas, c'est peut-être moi, je vis dans une bulle, peut-être un peu à part, mais je voulais vous poser la question. Littéralement, qu'est-ce que ça peut vous foutre, le nombre de personnes avec qui votre mec ou votre copine ou personne non-binaire avec qui vous êtes a couché? Littéralement, je ne vois pas. Si tu veux pas qu'elle ait couché, t'es un mec, tu veux pas que ta copine ait couché avec beaucoup de gars parce que t'as peur d'être comparé, c'est ton problème. Problème de confiance en soi, ça la regarde pas. Parce que t'as peur que vu qu'elle a couché avec beaucoup de gars, elle te trompe. Problème émotionnel de ton côté, c'est ton problème, c'est pas le sien. Cette manière de projeter son problème sur l'autre personne, voilà, j'ai donné deux exemples de gars vers une fille parce que ben, je suis un gars attiré par les filles et dans mon entourage, c'était ça la majorité, donc c'est l'expérience la plus proche de celle que j'ai vécue. Mais vraiment, je suis curieux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Et quelle manière de jeter déjà de la complication sur une vie sexuelle avant qu'elle commence? Tu commences en disant « la vie sexuelle, c'est quelque chose qui va être tendu, c'est possible de s'engueuler, c'est pas... » C'est comme une autre chose que j'avais vu ou constaté. Le fait qu'une fois que tu commences à coucher avec quelqu'un, ce soit bizarre de t'arrêter avant la fin. Ce soit bizarre de rigoler. Je sais pas si je sonne comme un petit con idéaliste naïf, mais si oui, désolé, mais si le but c'est d'avoir du fun, il faut avoir du fun. Je sais pas, ça me semble basic. Et moi, j'ai 37 ans, c'est pas comme si j'avais pensé comme ça toute ma vie. Donc, je me place pas au-dessus. Je me dis juste qu'aujourd'hui, une fois que tu t'assois, tu te poses, tu prends un peu de recul et comme n'importe quel moment où il y a une situation tendue, une discussion tendue, il me semble que le premier réflexe, le seul, le meilleur réflexe à avoir, c'est de s'arrêter et de dire « OK, pourquoi ça me dérange? » « Ah, je sais pas. » Super, prends du temps et pose-toi la question. Si quelque chose te dérange, on te demande pourquoi et tu ne sais pas répondre, il n'y a rien d'autre à faire que mettre cette conversation sur pause jusqu'à ce que tu aies trouvé la réponse. Et encore une fois, moi, je ne juge personne. Si ce que tu veux, toi, c'est être avec quelqu'un qui a eu minimum 500 partenaires puis l'autre personne, ça lui convient, que c'est un de tes critères, très bien. Mais si tout est parfait, mais la seule chose qui te dérange, c'est ce qu'une personne a fait qui ne te regarde pas avant de te connaître, me dépasse. Enfin bref, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça, mais vraiment, je suis curieux, il faut toujours me contacter, donc sur Instagram, Twitter, Facebook, comme vous voulez. C'est facile à trouver. Dan Gagnon. Et je suis vraiment ravi de recommencer à faire le podcast. Donc, comme je vous disais, 3 fois par semaine, 2 fois gratuit. Vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, ça change toute la vie pour moi si vous aimez assez pour vous abonner sur Spotify ou sur iTunes, par exemple. Et si vous aimez encore plus et vous voulez vous abonner au Patreon, ben, ça change encore plus ma vie. Patreon.com/Dan Gagnon podcast. Merci beaucoup. Ravi de vous retrouver. Et j'espère qu'on va passer une belle saison ensemble. OK, bye bye.